Lundi 12 novembre 2018, sur Bâti Radio, vivez la deuxième convention et grand prix de l'Académie des technologies avec pour thème les bâtiments durables, intelligents et bas carbone.
Avec moi, un des témoins de cette convention, il s'agit de Michel Papalardo. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, vous avez eu mille et une vies dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'Académie des technologies. Vous venez d'arrêter votre poste de directrice de cabinet du ministre d'État, le ministre de la Transition écologique. Alors, d'abord auprès de Nicolas Hulot et puis une petite partie avec François de Rugy. Quel était votre rôle ce soir et en quoi c'était important pour vous d'être ici ce soir ?
Mon rôle ce soir, c'était d'être témoin, comme plusieurs autres personnes, parce qu'effectivement, au cours de ma longue vie, là, comme vous le dites, je ne vous entends pas quand même si vieille que ça.
Mais ah, c'est pas en termes d'âge, c'est en termes d'expérience.
Ah oui, mais l'expérience, elle vient bien avec l'âge quand même, faut pas hésiter. J'ai aussi été présidente de l'ADEME, par exemple, et les sujets de l'économie d'énergie, c'est un sujet particulièrement important aujourd'hui, parce que derrière l'énergie, il y a les émissions de gaz à effet de serre, et donc il y a le climat. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il m'avait invité comme témoin. Le deuxième, c'est la durabilité, puisque vous l'avez dit, le thème, c'est le bâtiment durable. Et la durabilité, c'est au-delà de l'environnement, et c'est un sujet sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé en tant que commissaire général au développement durable. Et la première question qu'on m'a posée, j'y reviens parce que je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est qu'un bâtiment durable, c'est bien entendu un bâtiment qui réduit son impact sur l'environnement. Il peut le faire en matière d'énergie, mais pas seulement. Il peut le faire aussi parce qu'on va économiser la ressource en faisant par exemple, du recyclage de matériaux. Il peut le faire aussi en termes de biodiversité. On l'oublie souvent, par exemple, en évitant l'artificialisation de trop de sol ou en végétalisant les toits, etc., etc. Donc ça, c'est la partie impact sur l'environnement. Quand on dit durable, en général, on a bien celle-là en tête. Mais il faut aussi que ce bâtiment, il soit agréable à vivre. Il faut qu'il apporte une qualité de vie non seulement satisfaisante, mais optimale, pour que les gens aient envie de ce bâtiment durable et qu'ils aient envie d'y vivre. Alors, ça veut dire qu'il faut que l'air intérieur soit de bonne qualité. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de moisissures parce qu'on a fait une bouteille thermos. Ça, c'est
une bonne
en
lumière,
général ce qu'on dit quand on parle de nos bâtiments à économie positive, à faible consommation d'énergie. Donc tout ça, c'est des sujets auxquels on sait répondre, mais il faut y être attentif. Il ne faut pas qu'on entende de bruit, il faut que l'acoustique soit bonne, etc., etc. Donc la qualité de vie dans le bâtiment, c'est aussi une dimension importante de ce bâtiment durable. Et puis la troisième dimension, c'est toujours la même en matière de durabilité, c'est qu'il faut que ce soit abordable. Il faut qu'on puisse se l'offrir, parce que si vous faites un truc génial mais vous ne pouvez pas le vendre parce que c'est trop cher, ça n'ira pas non plus. Donc il faut arriver à généraliser suffisamment les techniques qui vont permettre de faire ce bâtiment durable pour qu'il soit accessible à tous, qu'on puisse facilement le construire et qu'on puisse facilement se l'acheter.
Alors j'ai l'impression que depuis quelques années, on remet l'habitant et l'usager au centre de cette transition écologique. Avant, on parlait beaucoup de la planète, on parlait de l'avenir de la planète, mais sans mettre la santé et le confort de l'habitant au cœur de cette transition énergétique. Alors que là, j'ai l'impression que le discours change petit à petit. Est-ce que c'est le constat alarmant ? Est-ce que c'est l'urgence de la transition énergétique qui fait qu'on axe encore plus sur le confort et la santé des habitants ?
Je crois que c'est plutôt parce qu'on fait des vrais progrès en termes de durabilité, parce que ces trois notions dont je viens de vous parler, elles sont au cœur de la durabilité. Je n'ai fait que donner la définition du durable appliquée au bâtiment. Ça a toujours été ça. Le problème, c'est qu'effectivement, entre les effets de mode, les effets politiques, la simplification qu'on a tendance à faire toujours dans un premier temps de tous les sujets, on a mis devant uniquement la dimension environnementale, parce que c'était certainement celle qui était la plus faible, la dimension sociale et la dimension économique, tout le monde l'avait en tête. Donc on insistait beaucoup sur la partie environnement et on la mettait contre les deux autres. Alors que ça n'a jamais été ça. Le développement durable, c'est bien l'intégration des trois. C'est pour ça que c'est beau, c'est aussi pour ça que c'est très très compliqué à faire. Mais c'est bien ça, et si on oublie l'humain et l'économique dans une démarche, dans une construction, que ce soit dans le bâtiment, dans les transports ou dans ce qu'on veut, forcément, on ne va pas y arriver, on va se planter. Voilà. Et donc, il faut vraiment mettre les trois ensemble et trouver des solutions qui soient harmonieuses sur les trois dimensions.
Alors, vous parlez d'harmonie, de cohésion. Est-ce que c'est le but de ce genre de convention et ce genre d'événement où on voit un rassemblement de l'ensemble de la profession du bâtiment qui travaille ensemble pour ils viennent chercher des informations ou vraiment des solutions concrètes pour travailler tous ensemble pour négocier cette transition énergétique?
Je crois qu'on voit là deux choses différentes. On voit effectivement d'abord cette idée que le bâtiment durable, il doit avoir toutes les dimensions dont je viens de vous parler et que pour ça, il faut effectivement tout le monde travailler ensemble. La dimension nouvelle, parce que ce que je viens de vous dire, on pouvait déjà le dire il y a 5, ouais, 6 ans, voire 10 ans. La dimension nouvelle, c'est la dimension numérique. C'est qu'aujourd'hui, on est clairement tous conscients que le numérique apporte des solutions à cette volonté de travailler ensemble. Apporte des solutions à travers le BIM, c'est-à-dire la manière de construire, de mettre ensemble tous les acteurs qui vont construire un bâtiment pour qu'ils le construisent non seulement en réalité, mais aussi en termes de base de données communes, en fait, et que donc on puisse en tirer plein d'informations, quel que soit le corps de bâtiment qui est concerné. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est affreusement compliqué. Hein. Mais
c'est très technique, oui.
Mais c'est quand même ça qu'on est en train de faire avec le numérique. Mais c'est le numérique, c'est aussi utile pour par exemple faire en sorte d'économiser l'énergie avec des capteurs qui vont vous permettre d'allumer et d'éteindre la lumière uniquement quand vous en avez besoin, de régler la quantité d'électricité dont vous avez besoin, de chauffer votre maison aussi en fonction de la température intérieure, extérieure, de l'heure, de la nuit, etc. Toutes ces choses-là, c'était bien sûr impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, non seulement c'est possible techniquement, mais c'est possible économiquement. Donc on peut faire ça dans les bâtiments. On peut donc faire, on peut aussi gérer toutes ces données dans une dimension qui va encore au-delà, qui est la gestion cette fois-ci du quartier et pas seulement du bâtiment lui-même, hein, et d'échanger des informations entre les quartiers, entre les bâtiments des quartiers, faire en sorte que quand on a trop d'énergie dans un bâtiment qui n'est pas utilisé, on puisse le passer dans celui qui est à côté. Enfin, voilà, il y a une foultitude de choses nouvelles qui nous apporte des possibilités réelles, très concrètes, hein, d'améliorer justement l'impact environnemental du bâtiment, mais aussi la qualité de vie des personnes qui habitent à des coûts qui sont devenus raisonnables. Donc cette nouvelle dimension, c'est bien pour ça que ce colloque s'appelle bâtiment durable, virgule, intelligent et bas carbone. Ça ne veut pas dire que c'est le bâtiment durable et intelligent et bas carbone. Non, c'est que le bâtiment durable, aujourd'hui, il est forcément intelligent et bas carbone.
Alors, je ne crois pas me tromper si je vous dis qu'en tant que témoin aujourd'hui de la convention, vous repartez avec un bilan plutôt positif de cette rencontre.
Moi, je suis ravie de voir que les gens se parlent. Déjà, c'est toujours une bonne chose.
C'est vrai.
Ensuite, ils ont l'air même de se comprendre. C'est encore mieux. On voit bien que chacun apporte sa brique. Chacun montre que dans son domaine, il a pu intégrer à la fois la dimension de la durabilité, c'est-à-dire que tout le monde maintenant se préoccupe de la préoccupation environnementale, notamment de la préoccupation climat, parce que c'est l'urgence, mais chacun explique aussi comment il intègre le numérique pour aller dans ce sens-là. Pas que le numérique, mais il intègre le numérique pour aller dans ce sens. Donc, on voit bien qu'il y a une connexion, une cohérence, une compréhension qui est absolument nécessaire, parce qu'on ne fera jamais de durable, de toute façon, si on n'est pas dans la transversalité. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer à travers ce type de manifestation.
Merci beaucoup Michel Papalardo. Donc, vous êtes membre de l'Académie des technologies et puis aujourd'hui vous étiez là en tant que témoin pour cette deuxième convention et grand prix de l'Académie des technologies. Merci beaucoup d'être passé au micro de Bâti Radio.
Lundi 12 novembre 2018, sur Bâti Radio, vivez la deuxième convention et grand prix de l'Académie des technologies avec pour thème les bâtiments durables, intelligents et bas carbone.